Ben Herbert, la rue, avec le titre On se bat, que nous retrouverons sur l'île du Roi à la Factory ce dimanche à l'occasion du Festival Poésia. Ah oui, ça fait court comme fin de jingle, mais bon voilà. Nous sommes toujours avec Florence et Hélène, avec qui... alors Hélène qui est spécifiquement responsable de projet vélo, comme on dit, ou plus précisément de mobilité active, qui s'intègre totalement dans le Pierre en Lumière, avec notamment le parcours entre Le Neubourg et Harcourt. C'est ça l'idée.
Voilà, c'est ça. Alors là, on est sur un parcours qui fait 13 km à peu près, ça dépend des détours que vous faites. En majorité sur voie verte ou sur des routes qui seront intégralement fermées à la circulation. On ferme une route départementale. Il y a des voiries communales qui permettent de faire la connexion depuis la voie verte sur 1 km, 2 km, jusqu'à des sites tels que le domaine d'Harcourt, le château du champ de bataille, qui sont juste à côté de la voie verte, mais où d'habitude les familles ne vont pas forcément parce que ce n'est pas sécurisé. Et donc le temps d'un week-end, ce sera comme une grande voie verte entre Harcourt et Le Neubourg, tout sécurisé, tout accessible et avec beaucoup d'animation.
Ouais, c'est habituellement, il y a cette voie verte qui est ouverte tout au long de l'année, qui relie Le Neubourg à Harcourt.
Oui.
C'est ça, elle relie...
Elle va même jusqu'au Bec, enfin oui, c'est Évreux, le Bec est loin.
C'est ça, oui, et du coup ça passe par Le Neubourg et Harcourt. Là, le but du jeu, c'est de pouvoir sortir de cette voie verte en toute sécurité, à vélo, en roller,
en trottinette,
à pied, voilà. Pour pouvoir... parce que 13 km, ça se fait à pied quand même aussi.
Oui, pourquoi pas, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit mobilité active, c'est tous ces trucs-là sont englobés dedans.
Quand on a fait l'aller, on se débrouille pour le retour? Parce que si je pars du Neubourg et que j'arrive à Harcourt à pied en me disant 13 km, ça le fait, je rentre à pied.
Oui.
Vous savez pas?
Oui, on avait un projet de navette, mais là, ça n'a pas pu avoir lieu, donc faut prévoir l'aller-retour. Ouais.
Voilà.
Bon, 26 km, ça se fait.
Ouais, à pied, ça commence à devenir un truc.
En vélo, c'est quand même tout à fait dans l'ordre du...
Non, mais il faut trouver un conducteur sympathique qui vous ramène.
D'accord.
Je suis sûre qu'il y en aura.
Très bien. Oui, on va pas tenter le truc, on va le prévoir avant de partir, hein, quand même. Moi, je pars pas faire 13 km à pied pour pas savoir si je rentre à pied ou pas, quand même, hein, Florence. J'assure le coup.
Ah, oh, c'est l'aventure.
Tu peux faire moitié le samedi, moitié le dimanche. Hein.
Non, c'est juste le dimanche.
Ah, ok, donc faut bien prévoir sa journée, quoi.
Bah, sinon, tu paries que ta tante et tu rentres sur la voie verte, quand même. Hein. elle est pas fermée dimanche, la voie verte. Hein.
C'est vrai.
C'est ça. Mais les animations et l'événement, c'est effectivement le samedi, on vient
de
dire.
Non, c'est dimanche.
Voilà, tu vois.
Bon, mais on fait bien de revenir là-dessus. Hein. Je vais prendre mon stylo rouge et je vais corriger mes dates. Sur cette notion de déplacement doux, on parlait de vélo principalement, mais effectivement, trottinette, roller, ça marche bien entendu. Le vélo, moi le mien, il n'est pas super au point. 13 bornes, ça se fait quand même avec mon vélo pourri?
Franchement, oui, il n'y a pas de difficulté.
Cette voie verte est quand même très bien... aménagé, merci pour le mot.
Oui, aménagé. Alors, on est sur du revêtement en goudron comme sur une route, ça roule très bien, il n'y a pas de difficulté. La voie verte, c'est tout plat. C'est une ancienne ligne de chemin de fer en fait, qui a été réaménagée en voie verte par le département de l'Eure. Et les routes qui en sortent, qu'on a fermées, là il peut y avoir un peu de pente, mais du coup c'est 1 km. Et puis moi, je le dis tout le temps, il n'y a pas de problème à pousser son vélo, descendre. Moi, des fois, je dis, je vais plus vite à pied, je m'en fiche, je descends.
Oui, c'est ça, quand c'est trop dur, on peut descendre et le pousser.
Non, mais là, il n'y a pas de montée qui vaille
la peine de descendre. Mince, alors, c'est-à-dire, si je descends, c'est que vraiment, c'était...
La montée la plus dure, c'est pour aller au domaine du champ de bataille, donc ça vaut le coup quand même.
Enfin, bah oui.
Voilà. Donc c'est une partie, c'est un cheminement au niveau du jardin qui est possible. C'est pas l'entièreté du domaine qui est accessible gratuitement, mais ça donne déjà un avant-goût. Et après, si les personnes veulent faire le jardin en entier ou voir l'intérieur, c'est payant, bien sûr.
Sur le parcours, il y aura des checkpoints. Pas des checkpoints, mais des éléments à découvrir,
ah, voilà,
autre que la pierre.
Il y a des visites patrimoine, il y a des visites des églises ou du domaine d'Harcourt, du château d'Harcourt, mais on a aussi des petites animations plutôt à destination des enfants. Comment on les fait avancer sur 13 km à vélo? Eh ben, tous les 2 km, on a une animation. Allez, viens, on repédale, on va arriver au vélo smoothie, on va pouvoir boire un coup. Et puis, on a mis en place aussi un petit système de tampons qui fait que si on fait parce qu'on n'est pas obligé de faire non plus le nœud Bourg-Harcourt, on peut très bien faire un bout et revenir, mais si on fait l'intégralité du linéaire, on a un petit cadeau à la fin quand on ramène son passeport tamponné.
Ah ouais, on tamponne les passages comme dans les marathons là où les...
Voilà, ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Puis il y aura des petites il y a une animation Lego, oui. Par exemple.
Il y aura une fresque Lego qui va être créée sur une photo que nous ne dévoilerons pas. Et du coup, petit à petit, chaque carré formera l'ensemble de la photo et à la fin, on aura la photo en entier.
Bon, alors, on a parlé Lego. Il y a Sceau qui a bondi. Sceau, toi, tu as exploré aussi ces questions de déplacement doux.
Ouais, je suis allée regarder du côté du baromètre vélo sur le département de l'Eure et on n'a que deux villes en vert, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil. Val-de-Reuil qui est la première ville cyclable de Normandie. Voilà, un exemple un peu à prendre, je pense, pour le reste des villes du territoire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accessibilité vélo type voie verte, etc. Par contre, en centre-ville, ça reste compliqué dans notre département. Et donc, bah, pour les Ébroïciens, bonne nouvelle, parce que bah, il y a toute une consultation pour un plan vélo. Voilà, donc je vais vous donner un peu les dates, parce qu'Évreux, il apparaît même pas sur le baromètre vélo.
On n'a même pas de points ?
Non, il y a Saint-André de l'Eure qui est en rouge, mais sinon...
Là, t'es en train de fâcher, Hélène. Là, Hélène, elle attrape le site.
Évreux n'y apparaît pas. On a Saint-Sébastien de Morsan, on a Normanville, mais on n'a pas Évreux.
Là, t'es en train de fâcher, Hélène.
Non, on n'a pas Évreux. Donc, voilà. Ça n'a pas été recensé par les usagers, en tout cas, il n'y a pas eu de note, puisque ce baromètre-là, il est fait par les usagers. Donc, du coup, sur Évreux, pour le réseau intercommunal, vous avez jusqu'au 30 juin pour donner votre avis sur une consultation, en fait. Et le réseau communal d'Évreux aussi jusqu'au 30 juin. Il y aura des dates de réunion publique. Réseau cyclable communal d'Évreux, le mercredi 24 juin, 18h à 20h, maison de quartier Alain-Nogared. Réseau cyclable entre Évreux et ses communes limitrophes, eh bien, on aura le mardi 9 juin à la salle des fêtes de Saint-Sébastien-de-Morsan. Voilà, le jeudi... ce soir, de 18h à 20h à la salle Vicomte Belleuil, place du Général de Gaulle, Village d'Avenir, Saint-André-de-l'Eure, ses communes limitrophes. Et puis, il y aura des réunions pour les assos qui seront ouvertes à toutes les mercredis 17 juin et le jeudi 25 juin. Donc, vous pourrez parler vélo, donner vos avis pour que ce soit plus accessible sur Évreux.
Merci, Sceau, pour toutes ces infos. Florence, oui. Il nous reste 45 secondes.
Oui, d'accord. Juste conclusion, motivez-vous pour le vélo au niveau d'Évreux, si j'ai bien compris. Donc, dimanche, 10h-18h, sur le circuit de la Voie Verte, Harcourt-Le Neubourg. Lancement au Neubourg à 10h. Et pareil, c'est deux villages départ, donc on peut partir soit d'un côté, soit de l'autre. Et je voulais juste dire que l'HDD, l'hôtel du département, sera ouvert vendredi soir pour des visites sur inscription patrimoine@heure.fr. Et visite avec un architecte pour voir le bâtiment d'une vision très différente de ce qu'on a l'habitude de le découvrir. Je crois que j'ai tout dit. C'est bon.
C'est plutôt pas mal et de manière très efficace. Hélène,
ça m'arrive.
Tout va bien.
Tout va bien.
Eh ben super. Merci beaucoup à vous, Florence.
Et le petit badge qu'on peut gagner si on fait le parcours en entier.
Eh ben super. Et dès qu'on aura tout tamponné. Merci beaucoup Florence, merci beaucoup Hélène d'être passée par nos micros. On vous rappelle, Pierre en Lumière, c'est ce week-end. Allez découvrir le patrimoine. Le festival Poésia, c'est également ce week-end. Allez découvrir de la poésie. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
RFI, Radio France Internationale, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
L'heure de retrouver Martin Guez pour le journal et à la une, ceux qui disent non.
Non au combat en Ukraine, de très rares soldats russes ont refusé de participer à ce que le Kremlin qualifie d'opération spéciale en terre ukrainienne. Des dissidents qui vivent un calvaire depuis leur refus exprimé dès février 2022. Notre correspondante à Moscou, Anissa Al-Jabri, a pu entrer en contact avec l'un d'entre eux, témoignage rare à retrouver en début d'édition. La guerre en Iran dure depuis 3 mois. En coulisses, les négociateurs espèrent toujours une issue rapide par la voie de la diplomatie. Sur le terrain, les frappes ont repris, des tirs américains dans le sud de l'Iran. Téhéran qui réplique notamment dans le détroit d'Ormuz. Une guerre qui a toujours des répercussions indirectes et inattendues, comme pour ces pêcheurs de homards dans le Maine aux États-Unis. Reportage à suivre. Le Canada prend des mesures et restreint les obtentions de visa face à Ebola. Et puis enfin, il fait trop chaud pour travailler, trop chaud pour courir aussi dans le sud de la France. Nouvelle journée caniculaire ce jeudi, les élèves doivent s'adapter, notamment quand il y a cours de sport au programme.
La guerre en Ukraine a débuté il y a plus de 4 ans. Témoignages exceptionnels ce matin sur RFI de ces soldats russes qui ont refusé de se battre en Ukraine.
Alors que Moscou cherche désespérément des bras et recrute à tour de bras, même dans les universités où la Russie cherche du personnel qualifié pour ses unités de drones. La Russie qui communique très rarement sur ses pertes militaires. Kiev estime de son côté que l'armée russe a perdu plus d'un million de soldats depuis le début de l'offensive en février 2022. Des soldats qui, dans de très rares cas, ont refusé de participer au conflit en Ukraine. Comme ce jeune russe avec qui vous avez pu échanger, Anissa Al-Jabri, vous êtes notre correspondante en Russie pour des raisons de sécurité. Nous avons changé le nom et la voix de ce soldat qui a refusé d'aller en Ukraine, et ce, dès le début de la guerre.
Oui, on a échangé avec messagerie, avec Igor. Igor qui se trouvait à l'intérieur d'une caserne de l'armée, quelque part à l'ouest de la Russie. Sur sa décision, voilà ce qu'il dit.
J'ai refusé de participer à l'opération spéciale car pour moi un soldat c'est quelqu'un qui protège. Il n'y a rien d'autre à ajouter.
Rien de plus à dire parce qu'Igor a déjà osé l'impensable pour beaucoup de Russes et il marche déjà depuis longtemps sur une corde très très raide. Il a 25 ans, il vient d'une ville du nord du pays où il ne trouvait pas de travail, dit-il. Alors avant la guerre, il a signé pour un contrat pour l'armée sans imaginer que quelques mois plus tard, son président déciderait d'envoyer ses soldats en Ukraine.
J'ai refusé d'intégrer les forces spéciales dès le début, c'est-à-dire en 2022, quand tout a commencé. À partir de ce moment-là, la pression a été constante. On m'a privé de mes revenus, c'est comme ça qu'ils s'y sont pris, pour que je me retrouve endetté. Maintenant, j'ai une dette d'1 million de roubles. Et c'est à ce moment-là que l'armée nous montre que la seule solution à ça, c'est partir pour l'opération spéciale. Et c'est la seule. Je n'ai aucun ami participant à l'opération spéciale. Je ne communique pas avec ceux qui sont devenus des combattants. Je n'ai jamais gardé aucun contact, parce que nous n'étions pas d'accord sur ce point. Eux ont décidé qu'il était plus facile de partir, alors que moi je suis resté et je me bats pour ne pas y aller.
Plus de 4 ans de combat pendant lesquels Igor est allé jusqu'à saisir les tribunaux militaires et demander la reconnaissance de la fin de son contrat expiré depuis longtemps. Igor a fait plusieurs tentatives de suicide. Il est suivi par une psychiatre et placé dans une unité médicale. Son téléphone lui est souvent retiré pendant des heures sans qu'il sache quand il le récupérera et il est très seul.
Pour moi, c'est étrange de ne pas avoir été soutenu par les prêtres. Je viens d'une famille religieuse. J'ai aussi passé toute mon enfance à étudier dans les monastères. Il y a un commandement qui dit de ne pas tuer. Mais voilà que maintenant, il s'avère qu'on nous dit que c'est autorisé pour le bien du pays. Franchement, c'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas.
Igor se dit soutenu à l'extérieur par sa famille et ses amis. J'ai essayé aussi pendant très longtemps de contacter d'autres proches de ceux très rares qui ont refusé la mobilisation en 2022 et sont en prison. Paralysés par la peur, les familles refusent de parler. Selon un avocat, ceux qui n'ont pas voulu aller se battre en 2022 ne retrouveront pas la liberté avant la fin de la guerre.
Merci beaucoup Anissa Al-Jabri, correspondante de RFI à Moscou. La Russie, avec qui l'Union européenne envisage des discussions, sujet à l'ordre du jour aujourd'hui lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Chypre tout à l'heure. La chef de la diplomatie des 27, Kaya Kallas, a elle mise en garde face au piège russe consistant à désigner un médiateur européen pour la guerre en Ukraine.
Voilà 3 mois que la guerre en Iran a débuté et le cessez-le-feu en vigueur est menacé.
Une trêve en cours depuis le 8 avril, mais ce matin, les États-Unis ont mené de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran sur une base au sol et contre des drones, ce qui constitue une deuxième opération américaine de ce type cette semaine. L'Iran, de son côté, affirme avoir tiré sur 4 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz et sur une base américaine. Washington affirme pourtant que les capacités balistiques iraniennes sont quasiment réduites à néant. Ces nouvelles frappes interrogent donc sur les réelles capacités du régime iranien, Franck Alexandre.
Pendant les 6 semaines de bombardement jusqu'à la trêve du 8 avril, les forces américaines ont visé 13 000 cibles sur l'ensemble du territoire iranien, annihilant, dit la Maison Blanche, les capacités balistiques de l'Iran. Une campagne massive qu'il faut néanmoins nuancer. Et il est possible de faire des parallèles. En 1944, pour raser la seule ville de Brest, les Alliés ont utilisé 7 800 avions et déversé 17 000 tonnes de bombes à explosives et 1 400 tonnes de bombes à fragmentation, c'est bien plus que le tonnage utilisé pour l'opération Epic Fury. À la fin mars, l'agence de presse Reuters publiait un rapport indiquant qu'après un mois de guerre, les États-Unis ont seulement détruit un tiers de l'arsenal de missiles et de drones de l'Iran. Un autre tiers serait toujours enfoui dans des tunnels et autres bunkers, mais pas définitivement éliminé. Personne ne sait avec exactitude ce qu'il reste de l'arsenal iranien. Seule certitude, les gardiens de la révolution n'ont pas vidé leur soute à munitions et tant qu'ils sont en capacité de faire feu, ils démontrent à l'adversaire qu'il n'y a pas de victoire acquise.
Et malgré les échanges de tirs de la nuit, l'option diplomatique est toujours sur la table. L'Union européenne estime ce matin qu'il n'est dans l'intérêt de personne de poursuivre la guerre. Le détroit d'Ormuz est lui toujours bloqué. Les États-Unis ont d'ailleurs annoncé des sanctions contre l'agence créée par l'Iran pour contrôler le détroit. Un blocage, on l'a dit, répété, qui a complètement déboussolé l'économie mondiale, notamment pour les prix du pétrole. Les prix à la pompe qui ont explosé aux États-Unis. En moyenne, l'essence coûte 50% plus cher aujourd'hui qu'au mois de février, ce qui a des répercussions sur tous les secteurs, même sur la pêche au homard, notamment dans le Maine, dans le nord-est du pays. État connu pour ses célèbres pêcheurs, touchés eux aussi indirectement par la guerre au Moyen-Orient. Reportage de Vincent Souriau.
Il vient d'accoster au ponton Tyler McFarland et il en décharge des dizaines des petits homards du Maine, tachetés, couleur marron-vert. On leur a déjà attaché les pinces et c'est l'heure de la peser. Il en a attrapé plus de 50 kilos ce matin. La pêche est bonne. Le problème, c'est le prix du carburant depuis le début de la guerre en Iran.
Je dois utiliser quelque chose comme 50 gallons de diesel par jour. Multiplié par 5 dollars, ça fait 250 dollars la journée. Moi, je m'en sors à peu près, mais il y a des copains qui galèrent. Ils consomment plus que moi parce qu'ils ont de plus gros moteurs.
Ici, tout le monde est membre de la coopérative locale qui garantit un prix fixe aux pêcheurs et qui redistribue les bénéfices en fin d'année. Mais avec l'envolée des charges, ça ne suffit plus, nous dit Laura Hughes, qui gère cette petite communauté de 35 bateaux.
Ce qui se passe en ce moment, c'est que le prix de l'essence continue de monter. Les prix des appâts grimpent aussi parce qu'on doit payer le carburant des livraisons. Ils doivent aussi mieux payer leurs employés sur les bateaux à cause de l'inflation et du logement qui est hors de prix par ici. Ça fait que parfois ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent avec le homard. Et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter pour le moment.
Elle garde le sourire, mais il y a quelque chose qui cloche, dit-elle, quand les gens ne veulent pas payer plus pour un homard que pour une boîte de biscuits. Vincent Souriau, South Bristol, Maine, RFI.
Et loin des homards du Maine, l'autre front de la guerre, au Moyen-Orient cette fois-ci, au Liban, où Israël bombarde de tirs la grande ville du sud du pays. Cela fait suite à des ordres d'évacuation. L'armée de l'État hébreu qui affirme viser des infrastructures de Hezbollah dans cette région qu'elle considère comme une zone de combat. Israël qui intensifie ses opérations terrestres et aériennes au Liban. Le Hezbollah qui fait état de combat direct et ce en dépit du cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Escalade qui intervient alors que le Liban et Israël ont rendez-vous au Pentagone demain vendredi avant une nouvelle session de négociation les 2 et 3 juin.
RFI à Kampala, 93.7 FM.
Et à Kampala, il est 10h09, l'Ouganda réagit face à Ebola.
L'Ouganda qui ferme sa frontière avec la RDC pour contenir la propagation d'Ebola. Les ressortissants ougandais de retour de RDC doivent désormais observer une quarantaine de 21 jours. En revanche, les échanges commerciaux avec la RDC ne sont pas interrompus. Dans le même temps, la Croix-Rouge en RDC lance un appel à la solidarité internationale pour faire face à l'épidémie. L'organisation qui est en première ligne, 3 de ses volontaires ont déjà succombé au virus. Et puis une autre réaction, celle du Canada qui renforce ses contrôles sanitaires et qui suspend ses visas pour les ressortissants de RDC, d'Ouganda et du Soudan du Sud, imposant des quarantaines obligatoires et renforçant la surveillance dans ses aéroports. Et ce alors que le pays accueille dans quelques semaines la Coupe du Monde de football sur son sol, Nafia Liber.
Visiter, étudier, travailler, s'installer, peu importe la raison, Ottawa leur ferme les frontières du pays. Même les voyageurs déjà munis d'un visa valide seront refoulés.
Soyons clairs, les documents ne seront pas annulés.
Il s'agit en fait d'une suspension de 90 jours des demandes d'immigration, nuance Léna Diab, ministre fédéral de l'immigration.
Where we're bit of test in her mouth. No one to kill, nothing to lose. Look at the sun and go back to south. Living everything.
Dans le cadre des Jeudis Juin, Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Come out on time. The truth is I'd rather sit out in the Quand une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.